Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Mes bien chers frères, notre joie est accompagnée durant la nuit pascale comme au matin de Pâques par les femmes. Les femmes qui ont été les premières à constater la résurrection du Seigneur par le biais du tombeau vide et celle de ses apparitions. J'ai prêché hier dans la nuit, et je vous renvoie, si vous ne l'aviez pas écouté, à ce sermon où j'ai prêché sur la question de savoir pourquoi étaient-ce les femmes et quelle est leur mission intime. Je voudrais, d'une autre manière, relire cet évangile et voir quel profit spirituel ces femmes peuvent nous enseigner dans l'action qu'elles ont posée. Il me semble qu'elles nous indiquent la voie supérieure, celle des vertus théologales. Vous connaissez votre catéchisme. Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité, des vertus qui ont pour but direct Dieu, pour objet Dieu, dit le catéchisme, c'est-à-dire des vertus qui sont directement tournées vers le Créateur. Ces vertus nous sont données, infusées par l'Esprit-Saint, et elles viennent se poser sur notre nature humaine, la foi se posant sur la confiance, l'espérance se posant sur l'espoir humain et la charité sur l'amour humain. Oui, voilà comment Dieu se conjoint l'humanité dont il n'est pas étranger, puisque à la fois la confiance, à la fois l'espoir humain, à la fois la direction humaine sont déjà des dons de Dieu, ce sont déjà des dons qui nous viennent de la création. Voyons rapidement, et ne soyez pas trop bouleversés que pour une fois le curé fasse une homélie en trois points. Mais je pense que ça m'est commandé pour une fois. La foi d'abord. La foi qui veut faire toucher. La foi qui est de tenir pour vrai ce que l'on n'a pas vérifié. Et cette foi leur fait toucher le corps du ressuscité. Elles ne savent pas encore qu'il est ressuscité. Elle leur fait toucher la foi, le corps de Jésus. Elles y vont et elles sont persuadées qu'elles trouveront Jésus. Une foi qui va trouver un obstacle, comme souvent la foi dans notre vie. Cet obstacle, c'est la pierre. La pierre, trop grande. Elles ne sont pas sottes. Elles savent qu'elles ne pourront pas rouler la pierre, puisqu'elles le disent. Elles se disent entre elles, mais qui nous roulera la pierre? Alors, pourquoi est-ce qu'elles y vont quand même? Il me plaît parfois à penser que si ces femmes avaient été des hommes, elles n'y seraient pas allées. Ben oui, on ne pourra pas, c'est pas possible. Hein. Alors, on a bien fait notre calcul, c'est bien rationnel. On est trois, il faut être cinq pour rouler la pierre. N'y allons pas. Les femmes, parce que leur foi leur fait croire que Dieu leur donnera le moyen de toucher le corps de Jésus, y vont quand même. La foi n'est pas déraisonnable. La foi considère la raison, mais sait qu'elle va le dépasser. Cette raison humaine qui nous est donnée comme moyen de la connaissance, y compris de la connaissance de Dieu, la connaissance naturelle de Dieu est un don de Dieu, et personne ne peut dire, sauf à être anathème, que l'on ne peut pas connaître Dieu dans son existence et même dans certains de ses attributs par le simple usage de la raison naturelle, de la philosophie. C'est le Concile Vatican I qui le proclame avec force, condamnant comme hérétique toute position fidéiste qui tendrait à exclure la raison. Nous ne sommes pas déraisonnables, mais nous savons que nous avons un autre moyen de connaître Dieu, qui est de lui faire confiance. La foi, c'est la confiance en fait. Comme fides, être confiant, c'est fides la foi. Alors nous sommes confiants que nous pourrons obtenir ce que nous croyons, parce que nous ne l'avons pas inventé, mais qu'il nous a été transmis, révélé par Dieu. à Dieu qui se révèle et dû l'obéissance de la foi, dit cette fois-ci le Concile Vatican II. Eh bien oui, ce n'est pas premier, et c'est ça l'erreur, c'est de placer la raison avant la foi, porte fermée à tout jamais pour ceux qui empruntent ce chemin. Les femmes usent de leur raison naturelle, pensent que par la foi, elles ont confiance que Dieu ouvrira un chemin. Ces femmes avaient déjà médité les psaumes depuis longtemps. Bienheureux celui qui aime le Seigneur, un chemin s'ouvre dans son cœur. Voilà le chemin de la foi que nous montrent les femmes, dont l'objet va dépasser infiniment leur espérance. Elles ont pensé venir toucher le corps de Jésus. Ce n'est pas ce qu'elles vont obtenir. Elles vont obtenir beaucoup plus. Elles vont obtenir de toucher son corps mystique, c'est-à-dire d'en être. Elles ont simplement cru, par la foi, que Dieu leur donnerait le moyen d'aller toucher un corps mort. Dieu va opérer, grâce à leur foi, grâce à la confiance qu'elles ont mise en Dieu, va opérer beaucoup plus grand que ce qu'elles ne croyaient. Elles vont devenir les membres même du corps qu'elles pensaient toucher. Elles ne vont pas seulement le toucher, elles vont en être, elles vont entrer dans ce corps mystique en recevant la mission d'aller toucher les apôtres, d'aller leur dire « Le Seigneur vous attend en Galilée » et particulièrement de le dire à Pierre. Il ne s'est pas manqué, tout au long de l'Église, de figures féminines, toutes mystiques, qui ont rappelé à Pierre là où était le Seigneur. Je pense évidemment à Sainte Catherine de Sienne, qui se permet d'écrire au XIVe siècle cette simple femme qui n'est même pas religieuse, tout juste, dirait-on aujourd'hui, une vierge consacrée. Elle va dans les champs autour de Sienne, mais elle se permet d'écrire au pape, très Saint-Père, prosterné à genoux aux pieds de votre sainteté, implorant la bénédiction apostolique, baisant la mule de votre haute éminence. Je vous rappelle que votre devoir est d'aller à Rome sous peine de perdre votre âme, de devenir, parce que vous êtes évêque de Rome, d'être le souverain pontife, le vicaire du Christ qui, de Rome, doit diriger son Église. Voilà que les femmes, pleines de foi, sont entraînées très au-delà de l'objet qu'elles pensaient toucher. C'est normal, l'objet de la foi est en Dieu. Il dépasse infiniment ce que nous en pouvons connaître. Les femmes nous enseignent ensuite, dans un deuxième temps, la voie de l'espérance. L'espérance qui nous donne de voix, qui nous permet de désirer voir Jésus. Oui, nous voulons voir Jésus. Carme a écrit, fort connu, un ouvrage que je vous recommande, « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu. Si vous avez de l'espérance, vous n'avez pas de l'espérance en général ou pour les autres ou pour le monde, hein, c'est moi qui espère voir Dieu. Et cette espérance des femmes, elles veulent voir le Seigneur, fait qu'elles sont des êtres de désir, fait qu'elles sont des êtres vraiment créés par Dieu avec une volonté intérieure de dépasser sans cesse ce que nous possédons. Un économiste, je crois que c'est François de Clauset, avait écrit il y a quelques années, il y a au moins 30 ans, un petit essai qui s'intitulait « Toujours plus ». Et il faisait le constat que l'homme désire toujours plus et que finalement il est déçu. Il est déçu, ça dépend en quoi il a mis son espérance. Car si vous espérez, vous gavez de vin et de viande, vous le serez, mais cela ne comblera pas votre cœur. Et pourtant, le vin et la viande sont très bons. Ou le poisson, ou les herbes, je n'entre pas dans des discussions alimentaires. Si vous désirez, vous gavez d'argent. Vous pourrez en avoir, peut-être, mais cela ne comblera pas votre cœur. Et l'argent est bon, il est utile, on en a besoin. Je n'arrête pas de faire des appels aux dons. Si vous désirez être intelligent, comprendre les choses. Inspiration supérieure, espérance pour l'homme. Déjà, on sent qu'on s'adresse à la partie supérieure de l'homme, sa partie la plus noble. Malgré tout, si vous vous enfermiez dans cette seule espérance, cela ne comblerait pas votre cœur, car ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie l'âme, c'est de goûter et sentir les choses intérieurement. Oui, il nous faut espérer le maximum. Les chrétiens ne sont pas des gagne-petits, des pousse-mégots qui espéreraient avoir une petite vie bourgeoise où ça va à peu près bien. Non, nous espérons le ciel, nous espérons Dieu, nous espérons l'infini, nous espérons l'immense, nous espérons que jamais notre cœur ne sera suffisamment rassasié, car toujours il désirera connaître Dieu et pourra recevoir une nourriture toujours plus extraordinaire qui jamais ne la rassasiera, jamais ne la rendra à satiété, jamais ne pourrira en lui-même. Notre désir, c'est le ciel. Notre désir, c'est de voir Dieu, c'est de le voir à travers les choses de ce monde pour arriver à le reconnaître un jour face à face quand il se donnera à nous dans la pleine connaissance de l'intelligence qu'il nous a donnée. Les femmes espéraient voir Jésus. Elles ont vu plus. Elles ont vu d'abord un ange. Elles ont vu un envoyé du ciel. Leur espérance, leur désir du ciel n'a pas été déçu. Elles ont vu un envoyé direct de Dieu leur indiquant le chemin. Mais ce n'est pas tout. En redescendant, elles ont vu encore le Seigneur leur apparaître et leur indiquer leur mission. L'ange leur a dit qu'il n'était plus ici, qu'il était ressuscité. Et voilà que le Seigneur a confirmé la mission d'aller trouver les apôtres. Leur espérance a été dépassée infiniment. Elles pensaient voir Jésus mort. Elles voient du haut du ciel aujourd'hui ce Jésus répandu et communiqué jusqu'à la fin des temps, le Christ répandu sur tous les continents, tous les chrétiens fêtant aujourd'hui la Pâque du Seigneur, les Pâques éternelles qui se donnent dans notre présent, aussi amputé soit-il, aussi triste soit-il d'une séparation temporaire, c'est la Pâque du Seigneur que nous célébrons, ce sont les Pâques éternelles, le Christ ressuscité en qui nous vivons déjà. La troisième voie, la troisième vertu, c'est la charité. La charité, ces femmes ne sont venues que pour ça. Elles étaient animées parce qu'elles ont suivi le Seigneur tout au long de sa vie publique, parce qu'elles ont servi le Seigneur, lui ont préparé à manger, lui ont peut-être raccommodé ses habits, que sais-je. Bref, elles se sont occupées de lui comme on s'occupe vraiment de quelqu'un qu'on aime sans cesse. Il y a parmi ces femmes Marie de Magdala, Marie de Béthanie, celle qui a oint le Seigneur, celle chez qui le Seigneur allait fréquemment se reposer avec sa sœur Marthe, la sœur de Marie, de qui il attendait d'être nourri. Oui, les choses les plus simples de la vie, et je pense à vous toutes, vos familles, vous êtes confinées, vous vous occupez les uns des autres, vous vous soignez les uns les autres, c'est la première des charités. C'est la charité essentielle et grâce à la poste qui fonctionne, peut-être avez-vous reçu des colis ou allez-vous envoyer quelques colis de nourriture, d'huile douce qui vont adoucir votre vie et vous réjouir de savoir que quelqu'un vous aime. Oui, le moyen de connaître Dieu, c'est la charité. La différence entre l'espérance, la foi, et cette troisième vertu surnaturelle, dit saint Thomas d'Aquin, c'est qu'elle est immédiate. C'est-à-dire que l'espérance et la foi sont des moyens de connaître Dieu, sont des moyens d'arriver à Dieu. La charité n'est pas un moyen, la charité est immédiate elle est Dieu lui-même. Par chaque acte de charité que nous faisons, nous touchons Dieu. Vous allez me dire, mais combien notre charité est pourtant imparfaite, combien mon cœur est parfois en dessous de ce qu'il aimerait faire, car le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et pourtant, chaque acte de charité, nous dit encore saint Thomas d'Aquin, pour imparfait qu'il soit, il est in via, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore une charité parfaite, une simplicitaire, il n'est pas complètement réalisé, mais il est déjà réalisé dans sa réalité en partie de ce qu'il est fait. La charité est toujours une perfection, quel qu'en soit le degré. Tout acte de charité que vous ferez est un acte qui vous fait toucher Dieu. Oui, là encore, les femmes ont été dépassées de beaucoup de leur espérance. Elles pensaient faire la toilette mortuaire de celui qu'elles ont aimé, suivi et servi. Elles ont acheté des aromates. Alors, me direz-vous, elles les ont achetées pour rien. Non. Les aromates qu'elles ont achetés, c'est ceux que nous mettons encore dans notre encens, c'est encore ceux qui sont offerts à Dieu dans l'Église, c'est encore la charité que nous faisons aux plus pauvres, aux plus démunis, à ceux qui sont seuls et qui en ont besoin. Ces aromates ne s'épuiseront pas, car ils ont été mus par la charité et ils ont Dieu pour objet. Jamais nous ne manquerons d'ardeur pour réaliser cette charité. Ne vous lassez jamais de faire le bien, nous recommande saint Paul. Eh bien voilà, que nous sommes dans ce bien à faire jusqu'à ce qu'advienne le Christ et que le bien soit réalisé en lui-même. Ainsi soit-il.